France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était en 1994. Jérôme Lindon accordait à Jean-Maurice de Montrémy une série de 5 entretiens d'avoine nue. C'était pour Jérôme Lindon l'occasion de parler de son amour de la littérature, de son métier d'éditeur et de dérouler le fil de l'aventure des éditions de Minuit, de leur fondation durant l'occupation, du temps de Vercors et Pierre de Lescure, jusqu'aux auteurs des années 90, en passant par Beckett, Blanchot, Bataille, les auteurs dits du nouveau roman, en passant par Duras, Derrida, Deleuze et bien d'autres. Dans le premier de ses entretiens, Jérôme Lindon évoquait sa passion d'enfance pour les livres et les circonstances qui, au lendemain de la guerre, le menèrent vers l'édition et la mythique maison issue de la Résistance, qu'il intégra comme stagiaire à 21 ans, avant d'en devenir le dirigeant dès 1948. Dans ce premier volet, Jérôme Lindon disait combien fut déterminant, dans sa propre histoire et dans l'histoire des éditions de Minuit, la rencontre de Samuel Beckett lors de la publication en 1951 de Molloy et Malone meurt. Un auteur et un moment de sa vie d'éditeur sur lesquels il devait revenir plus longuement dans les entretiens suivants de cette Avoine nue. Avoine nue, Jérôme Lindon, premier entretien, diffusé la première fois le 17 octobre 1994 sur France Culture.
Avoine nue. Jérôme Lindon s'entretient avec Jean-Maurice de Montrémy. Premier entretien.
Jérôme Lindon, vous venez de fêter vos 69 ans. Depuis 1948, vous dirigez l'édition de Minuit. Pas besoin de faire de dessin, comme on dit. Couverture blanche, filet bleu, nom de l'auteur en noir. Les titres en lettres capitales sont d'un bleu proche du bleu roi. Un bleu roi ?
Oui, peut-être.
Ça a toujours été le même. J'ai regardé, il n'y a pratiquement pas eu de variation.
Non, en principe, il n'y en a pas, sauf la variation de l'encre selon les imprimeurs. Mais enfin, en principe, on a gardé tout. Je suis très traditionnaliste.
Et vous y avez tenu.
Les gens croient qu'on fait les choses, en réalité, on les subit, ne change pas par manque d'imagination, simplement.
Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a suggéré de vous refaire de nouvelles couvertures, de changer de logo afin d'avoir une meilleure exploitation ?
Probablement, mais par paresse, j'ai dit non.
Donc voilà, nous allons donc parler d'un grand paresseux, Jérôme Lindon.
Oui.
Alors parmi les auteurs de Minuit, il y a Vercors, le fondateur, mais ça c'était avant vous.
Oui.
Il y a Beckett, Alain Robrier, Claude Simon, Marguerite Duras, Robert Pagès. Enfin j'arrête, de toute façon on va en parler, on va beaucoup parler d'eux. Ils sont tous marquants dans la vie littéraire, ils sont des dizaines, ils sont octogénaires ou tout jeunes gens. Vous dites souvent d'ailleurs que vous n'avez rien à dire de vous, Jérôme Lindon, parce que vous auriez d'une certaine façon vécu ou écrit par leur intermédiaire.
Oui, j'ai eu la chance de vivre par les livres que je publiais, c'est-à-dire par ceux qu'écrivaient les autres. Et c'est évidemment, entre autres avantages, ça vous permet de, sinon de ne pas vieillir, tout au moins d'avoir l'impression de rester jeune, puisque on commence par publier les gens qui ont l'âge d'être votre père, comme c'était le cas avec Samuel Beckett, par exemple. Et puis ensuite par ceux qui sont de votre âge, puis ceux de l'âge de vos enfants, puis ceux de l'âge de vos petits-enfants. Et c'est comme le métier de professeur, je pense, on ne se voit pas vieillir.
Métier de professeur, dites-vous, c'est d'une certaine façon, ce ne sont pas vos enfants, ce sont plutôt des gens dont vous suivez la carrière.
Ben, j'essaye de les servir, je suis là pour ça. Je veux dire, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient lus. C'est ce qu'ils me demandent quand ils apportent un manuscrit. Souvent, les gens sont étonnés quand je réponds à la question « Mais pourquoi vous ne me publiez pas ?» Parce que je me sens pas capable de vous faire lire. Et ils pensent que c'est une coquetterie, que c'est une façon de se dérober. Non, en réalité, quand j'ai l'impression que je ne peux rien faire, une impression suffisamment forte que je ne peux rien faire pour faire lire un écrivain, eh bien, je crois qu'il est plus honnête de renoncer à le publier.
Votre expression, c'est « je ne me sens pas capable de vous faire lire », ça n'est pas, par exemple, c'est mal écrit, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un style qui m'est cher.
Je dis ça quand il s'agit... des choses qui seraient publiables et qui sont de loin les plus nombreuses. Alors, il y en a quelques-unes qui, en effet, peuvent présenter suffisamment de critères objectifs de non-éditabilité pour que la question ne se pose même pas. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent très bien trouver leur place dans une autre maison d'édition et qui la trouvent souvent et qui trouvent un succès qu'elles n'auraient pas trouvé aux éditions de minuit. Oui.
Donc c'est moins vous qui vous prononcez sur votre opinion.
Non, je
quant
pas sur
texte,
mon opinion, sur ma capacité plutôt. Je me prononce. En effet, je dis souvent, c'est pas une œuvre vraiment que je juge. S'il y a un jugement, je l'exerce plutôt quant à ma propre capacité à défendre une œuvre.
Oui. Et alors, dès le départ, lorsque vous avez eu des rapports avec les auteurs, vous avez toujours pensé en fonction de leur œuvre, c'est-à-dire les livres à venir et ce qu'ils deviendront sur, on l'espère, une longue existence pour la plupart d'entre eux, ou vous avez jugé le livre lui-même?
On ne juge que le livre qu'on a sous les yeux, mais probablement, en effet, vous avez raison, j'ai toujours essayé de situer cette vision dans le temps. Mais vous savez, en réalité, on n'a pas l'occasion de penser en termes aussi précis. On a une œuvre qui vous bouleverse, ou en tout cas qui vous touche, et puis ensuite on voit l'auteur, car souvent, la plupart du temps, on ne le connaît pas avant. Et puis...
Le charme de l'auteur joue ?
Oui, mais pas toujours dans le bon sens, parce qu'il m'est arrivé de voir un auteur avec l'idée que je ne publierais pas son livre, d'être séduit par l'auteur qui défendait parfaitement bien son livre, et de le publier à ce moment-là, et ensuite de le regretter, effectivement.
Alors on va oublier un instant tous ces auteurs, parce qu'on va les retrouver tout au long de ces entretiens, Jérôme Lindon, et on va revenir peut-être assez loin dans le temps. On va essayer d'imaginer que vous avez 8, 10, 12 ans, vous êtes d'une famille bourgeoise, votre père est un haut magistrat.
Avocat à l'époque, il n'était pas magistrat.
Il était avocat, c'est un brillant avocat, puisqu'il a eu une très belle fin de carrière en tout cas.
Ensuite, il est devenu magistrat, en effet, après la guerre.
Mais et je suppose qu'il y avait donc une bibliothèque dans la maison.
Il y avait une bibliothèque dans la maison, mais qui n'était pas destinée aux enfants. Il y avait une bibliothèque des parents. Mais effectivement, je lisais beaucoup. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle je suis probablement devenu éditeur. En ce sens que là non plus, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais mon père, me voyant toujours un livre entre les mains, avait fini par... C'était peut-être une boutade au départ, mais on en fera un éditeur. Hein. Et puis...
On en ferait un éditeur, c'était pas... On fera de Jérôme un écrivain.
Ah non, pas du tout, ça n'a pas dû... D'ailleurs, j'écrivais pas, enfin... Je fabriquais des livres, effectivement, comme tous les enfants, vous savez. On découpe du papier, on le coud, on met des illustrations. Je dessinais un peu à l'époque. Et puis j'écrivais des textes qui ne valaient pas grand-chose. Non, ça n'a pas du tout... convaincu mes parents que je devais être un écrivain, mais qu'en effet, on parlait d'éditeur. De sorte que quand la guerre est arrivée, mes parents se sont réfugiés à Aix-en-Provence en 1940. Et là, plutôt que de me faire continuer et terminer mes études secondaires, on a pensé me faire entrer dans une école professionnelle pour apprendre le métier d'imprimeur. Et c'est parce que je n'ai pas pu y entrer que j'ai, comme pis-aller, passé mon bachot. Ensuite, j'étais au maquis et puis l'armée. Et puis, quand j'ai été démobilisé, j'avais 20 ans. Dans la même voie, j'ai fait des stages dans l'imprimerie et dans la photogravure, de sorte que, en 1940, je suis entré aux éditions de minuit à la fabrication.
Jérôme Lindon, essayez tout de même de vous souvenir de ce livre, d'un des premiers livres qui vous aurait plu. À quoi pouvait-il ressembler ?
Oui, effectivement, mais d'autant que c'était une sorte de boulimie. Mon frère et moi, nous lisions énormément de livres. Nous en avions des quantités dans la bibliothèque, mais d'abord des livres pour enfants. Et je crois que je n'ai commencé que très tardivement à lire ce qu'on appelle des livres pour adultes.
Livres pour enfants sont des illustrés ou des grands récits pour enfants, genre Jules Verne ou des choses
oui,
de façon belle couverture dorée ?
Oui, il y a eu ça. Mais vraiment, nous lisions tout ce qu'on nous donnait. J'ai le souvenir d'une espèce de... vous savez, comme sont souvent les enfants dont les parents disent « Bah écoute, en vacances, tu ferais mieux de sortir par ce beau temps au lieu de rester enfermé à lire. » C'est une phrase qu'on a tous entendue. Bon, j'étais comme ça. Je n'ai pas vraiment des souvenirs précis de tel ou tel livre. Eux, ça a commencé en effet par des livres illustrés, et puis ensuite il a dû en avoir d'autres. Mais en réalité, toutes mes lectures d'aujourd'hui, celles qui me marquent, qui m'ont marqué même avant d'être éditeur, sont des lectures plutôt d'adultes. Je veux dire, je me rappelle après la guerre, ça a été la lecture notamment de Faulkner, qui a été une des choses qui m'a le plus marqué, en effet. Mais je n'ai lu Proust que très tardivement, j'étais déjà éditeur.
Si vous étiez lecteur boulimique, donc avant l'édition, vous étiez un lecteur boulimique sans lancer dans une sorte, j'allais dire, de défrichage méthodique de la littérature les grands maîtres, les grandes œuvres.
Je me vois pas du tout comme quelqu'un qui invente les choses et qui progresse délibérément. J'ai toujours eu le sentiment que c'est les autres qui m'ont tout apporté, et notamment les livres qu'on me donnait, que je ne choisissais pas. Je n'achetais pas de livres. Dans les familles bourgeoises avant la guerre, on n'avait pas beaucoup d'argent de poche, ou très très peu. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir de fréquenter les librairies avant la guerre, précisément.
Et alors, dans les grands romanciers, par exemple, qui pouvaient se rencontrer dans cette bibliothèque, s'ils se rencontraient à côté des traités de droit, vous avez déjà trouvé des gens qui vous plaisaient davantage?
Non, vraiment pas. Je ne lisais pas les livres de la bibliothèque de mes parents. Il y en a d'ailleurs peu. Mon père n'était pas véritablement un littéraire. Je ne crois pas que la bibliothèque, autant que je me souvienne, puisque ça date d'avant la guerre, la bibliothèque de mes parents ne comportait, à ma connaissance, pas tellement de livres de littérature. C'était plutôt mon père s'intéressait à l'histoire, des choses comme ça.
Alors, à l'époque où vous commencez à vous intéresser à la fabrication du livre, etc., le contenu vous intéressait tout de même?
Ah oui, mais je me disais que comme je n'étais pas un littéraire, comme je viens de vous le dire, ma seule chance d'entrer en contact et de vivre la vie du livre, c'était d'apprendre le métier par son côté technique et qui m'intéressait aussi. En effet, je vous dis, c'est comme ça que je suis devenu éditeur, c'est par la fabrication.
Et votre première émotion, assez paradoxalement, ça serait plutôt de voir du papier coupé, broché, mis sous couverture et imprimé. Avant de vous demander ce qu'il y a à l'époque.
Oui, je sais pas. Je sais que oui, avant la guerre, on coupait les livres. Vous vous souvenez? C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire aussi. Quand j'avais un livre, à partir du moment où j'ai commencé de les acheter, effectivement, je me rappelle cette impression aussi, ce contact réel avec le livre, même si après coup, sans doute, on enjolive les choses et on parle de l'odeur du papier ou de l'encre. Je ne sais pas tellement si j'étais sensible à ça. Mais il y avait effectivement un plaisir à être en contact avec le livre.
Oui. Dans ces travaux que vous avez faits, on le rappelle, donc c'est pendant la guerre que les circonstances vous dirigent davantage vers la fabrication. Est-ce que la situation politique, vos impropres intérêts dans la résistance, dans la politique, ne vous ont pas détourné d'une certaine manière de cet aspect-là? Fabriquer des livres, c'est peut-être pas le moment lorsqu'il n'y a plus de papier.
Oui, mais attendez, j'avais 15 ans en 1940, n'est-ce pas? Et je n'ai commencé réellement à travailler dans l'imprimerie qu'après la guerre, quand j'en ai eu 19, après démobilisé. Alors dans l'intervalle, j'ai oublié. En effet, entre 15 et 19 ans, j'ai plus pensé à ça. Effectivement, j'ai eu d'autres choses à faire, et plutôt d'autres choses à subir. Non, en réalité, je vais un peu trop vite. J'ai eu la chance, avant la fin de la guerre, après l'armistice, mais j'étais toujours militaire, invité plutôt par Gilbert Gadoff, que j'avais connu au maquis et à l'armée, j'ai été invité par lui à diriger le service de documentation, j'exagère, je ne dirigeais pas le service, mais j'étais responsable du journal des troupes françaises en occupation en Autriche.
Donc, voilà, journaliste.
Je me suis trouvé journaliste, et là, j'ai effectivement écrit de temps en temps, inventé même, j'en ai un peu honte, rétrospectivement, certains articles dits d'information qui m'ont valu, je pourrais raconter quelques anecdotes là-dessus.
Vous avez inventé de l'information ?
Oui, j'ai inventé de l'information parce qu'on n'avait pas de matière pour mettre dans le journal. Alors, il fallait de temps en temps, alors à partir de dépêches d'agence, on brodait, quoi. On n'inventait pas de toutes pièces, mais un petit peu. Enfin, je le faisais parce que j'étais tout seul à ce moment-là.
Et après, plus tard, vous avez reproché aux critiques littéraires d'écrire n'importe quoi et aux journalistes de parfois ?
Non, je ne leur ai pas reproché. Je sais que c'est ça leur métier.
L'ayant exercé momentanément.
Non, mais là, c'était bien pire que tout ce que je faisais, puisque c'était en principe de l'information, alors que les critiques littéraires ne sont des critiques d'humeur en général, qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent, en effet, et donc d'être très, très personnel, ce qui n'était pas mon cas. Non, mais j'ai appris à travailler avec des imprimeurs autrichiens qui ne parlaient pas un mot de français. Moi, je ne savais pas un mot d'allemand. Quelquefois, ils savaient le français, mais ils faisaient semblant de ne pas le savoir, car ils ne collaboraient pas, je peux vous dire, à Innsbruck en 1945. Mais j'ai quand même là appris les choses, et je vous dis, dès que j'ai été démobilisé, j'ai recommencé à travailler dans ce métier, et un jour, allant au mariage d'un camarade de régiment, j'ai appris que les éditions de nuit étaient dirigées par Paul Silva Coronel, qui avait été officier dans le même régiment que nous, et je me suis présenté à lui, il m'a embauché comme stagiaire, simplement non rémunéré, et c'est comme ça que je suis entré aux éditions de minuit, non pas comme chef de fabrication, mais comme employé à la fabrication sous les ordres de Madame Vercor, qui était, elle, censément chef de fabrication.
Vous aviez donc tout juste 21 ans.
Et j'avais, oui, je devais, c'est ça, oui, j'avais 21
ans. Vous étiez majeur, enfin.
J'étais majeur, oui, j'avais, à l'époque, oui, c'est ça, je devenais majeur. Et puis voilà, et puis je me suis marié l'année suivante, et il se trouve que je me suis retrouvé en 1948, finalement, du fait de la situation catastrophique de la maison, tout seul à y rester. Donc, je suis devenu directeur de cette maison, là encore, sans l'avoir véritablement voulu, simplement parce qu'il n'y avait plus personne d'autre.
Alors ce passage, cet ultime passage à la fabrication, ça vous a marqué longuement encore maintenant? Ou vous avez oublié cette partie de votre vie?
Ah non, pas du tout, je continue de m'intéresser. Vous savez, nous sommes une toute petite maison, et tout le monde fait tout dans la maison. Hein. Effectivement, je suis en relation directe, j'en sais moins que lui, mais je suis tout de même en relation avec le chef de fabrication ici. Et puis, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, on ne fait pas de prodige en matière d'innovation aux éditions de minuit sur la question de fabrication, mais je veux dire, bon, je connais assez bien, en effet, ces problèmes pour pouvoir avoir mon mot à dire.
Mais est-ce qu'on remarque dans les éditions de minuit une très lente évolution, on prend pratiquement sur les quelques, je veux dire, presque 50 ans de la maison, on remarque une lente évolution de la typographie. Alors est-ce que c'est le hasard des imprimeurs, ou est-ce que vraiment vous choisissez les caractères que vous voulez?
Ah non, on ne choisit pas les caractères qu'on veut, on choisit en fonction de ce que les imprimeurs font. Effectivement, les imprimeurs se modernisent, les techniques modernes sont meilleures qu'elles n'étaient il y a 45 ans, et on joue un certain rôle, mais enfin, encore une fois, nous ne sommes pas les promoteurs, nous suivons plutôt, et à l'intérieur des progrès, on choisit peut-être des choses plutôt que d'autres.
Donc vous n'êtes pas un fétichiste du livre tout de même, disant je ne veux que tel type de papier, tel type de caractère?
Non, je crois pas. C'est pas ça qui me paraît le plus important, en effet. J'essaye que les choses soient convenablement faites. Par exemple, je viens de lire par hasard une lettre que Jean Dubuffet écrivait à Claude Simon à propos des Géorgiques, dans laquelle il se félicitait de la présentation du livre, de la mise en page, de la calligraphie, etc. J'étais très content d'avoir fait plaisir à Jean Dubuffet, qui était quelqu'un que j'estimais énormément et que j'aimais beaucoup. Mais en réalité, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en attribuer le mérite.
Est-ce qu'on peut dire, au moment où vous allez commencer comme éditeur aux éditions de minuit, est-ce qu'on peut dire même que certaines choses sont déjà, j'allais dire, presque jouées dans ce qui va se passer par la suite? Vous êtes un jeune homme donc qui s'intéresse à côté un peu artisanal, bien fait, oui, des choses. La politique, la polémique, un petit peu de journalisme, vous aimez bien, vous connaissez tout de même plus qu'on ne peut le croire. Et puis la littérature, c'est peut-être ce que vous connaissez encore le moins bien.
Oui, absolument, vous avez raison. La littérature, vous savez que quand je suis entré aux éditions de minuit, je n'avais pas du tout pensé une seconde que j'allais en devenir le directeur. Bon, moi, mon ambition, c'était d'être chef de fabrication. Et au moment, quand j'avais 21, 22 ans, à ce moment-là. Puis il se trouve que les circonstances, comme je vous l'ai dit, ont fait que je me suis retrouvé avec personne d'autre à côté de moi. Donc il a fallu que je choisisse à ce moment-là, ou même pas que je choisisse, mais que je décide quand même si j'allais continuer ou pas. Et comme je vous l'ai dit, comme je suis quelqu'un d'assez paresseux, j'ai continué. Et c'est comme ça que je me suis trouvé être, sans l'avoir vraiment voulu, avoir à diriger, mais pas seulement sur le plan littéraire, mais sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan économique, une entreprise, ce à quoi je n'étais absolument pas préparé.
J'aimerais, Jérôme Lindon, qu'on en finisse avec votre définition de la paresse. C'est quoi alors? Ça consiste à monter une maison, trouver des prix Nobel et être des meilleurs. Non, c'est pas ça.
D'abord, non, mais ça, de toute façon, encore une fois, un éditeur, c'est rien du tout. Un éditeur, c'est quelqu'un qui prend de temps en temps une décision d'édition, très peu souvent dans une maison comme la nôtre. Et puis, mais c'est quand même pas nous qui écrivons les livres. Rétrospectivement, je vous dis, les choses me paraissent aller de soi, toujours. Bon, j'ai eu la chance. C'est formidable. La chance que j'ai eue que les œuvres de Beckett, puisque c'est le premier chronologiquement qui est arrivé dans cette période, que les œuvres de Beckett arrivent jusqu'aux éditions de Minuit. Elles n'auraient jamais dû arriver jusqu'à nous qui étions tout en bas de l'échelle. Cette œuvre aurait dû être retenue par les différents cribles des grandes maisons avant nous, et donc la question ne se serait jamais posée. J'aurais été le même Jérôme Lindon et je n'aurais pas édité Beckett, et probablement je n'aurais pas édité ensuite beaucoup de ceux qui sont venus, parce que le rôle de Beckett a été déterminant dans l'image des éditions de Minuit. Vraiment, je ne me ressens pas du tout comme une personnalité exceptionnelle, pas du tout, je veux dire, en aucune façon, même pas comme une personnalité du tout. C'est simplement, bon, qu'est-ce qui se passe dans le cas Beckett? J'ai ce manuscrit entre les mains, je demande à Georges Lambrix ce qu'il avait sur son bureau, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est très bien, mais vous n'en vendrez pas 500 exemplaires. Bon, ouais, c'était pas très... c'est-à-dire, c'était pas déterminant. Mais il trouvait que c'était très bien, comme d'ailleurs d'autres gens avant lui l'avaient trouvé, car le livre avait circulé dans l'état d'endroit, et même chez des éditeurs qui, dans l'ensemble, avaient tous émis, comme ça allait de soi, un jugement favorable en face d'une œuvre aussi évidente que celle-là. Le seul acte d'éditeur qui intervient, c'est quand quelqu'un décide qu'il va l'éditer, effectivement, que non seulement c'est bien, mais que, vente ou pas vente, etc., on va transformer ça, en effet, on va mettre ça sur du papier, on va l'imprimer, on va le tirer à un certain nombre de milliers d'exemplaires, et c'est le seul acte d'éditeur qui compte. Souvent, les gens me disent, quand est-ce que vous avez découvert Beckett? J'ai jamais découvert Beckett. Beckett existait avant moi. C'est comme Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique non plus. Elle existait avant lui. On n'est pas des découvreurs. On est simplement quelqu'un qui, à un moment, décide de transformer quelque chose qui est un simple manuscrit en une espèce de, j'allais dire, de produit de consommation. Mais en tout cas, un produit de série, disons. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de noble en soi, c'est simplement bon, une décision qui prend et qui rétrospectivement vous fait apparaître comme un découvreur que vous n'êtes pas. Et dans le cas de Beckett, je vous dis, c'est vraiment Samuel Beckett, pour moi, ça a été l'événement, peut-être le plus important, et d'une certaine façon le seul de toute ma vie d'éditeur.
Jérôme Lindon, vous n'avez toujours pas répondu sur la paresse.
Vous savez, je crois que les vrais paresseux, ce sont des gens qui veulent se débarrasser à toute vitesse de leur travail et qui vont...
Vous ne répondez pas à la question.
Oui, c'est peut-être. Je veux dire, effectivement, une des caractéristiques de cette maison, du fait que nous sommes peu nombreux, il y a eu à un moment, nous étions deux, Georges Lambrix et moi, ensuite nous étions deux, c'était Alain Robbe-Grillet et moi, ensuite j'ai été seul pendant une quinzaine d'années, et puis maintenant nous sommes de nouveau deux, Irène, ma fille, et moi. Mais nous sommes donc très peu, et surtout maintenant, les manuscrits qui sont arrivés il y a une heure, Irène les a déjà vus, sinon tous, en tout cas une bonne partie. Et s'il y a des choses qui, à son avis, valent que nous le voyions à deux, je l'aurais fait dans la journée. Et effectivement, nous avons constamment pratiquement, nous sommes toujours à jour. C'est-à-dire que nous lisons les manuscrits au fur et à mesure qu'ils arrivent, et les gens trouvent que, en effet, c'est l'expression d'une grande qualité de travailleur. Alors que, comme je vous l'ai dit, c'est simplement parce que, comme nous savons, enfin que je sais en tout cas, qu'on leur a les lire de toute façon, j'aime autant le faire tout de suite, ça sera déjà fait et on n'aura plus à le faire.
Ça, donc votre paresse consiste à liquider le travail
Je crois que c'est souvent le cas des paresseux qui ne supportent pas d'avoir en effet du travail à faire.
Mais alors, si vous êtes paresseux, c'est qu'il y aurait quelque chose d'autre qui vous intéresserait davantage et que vous voudriez faire?
Non, j'aime beaucoup. Je suis paresseux, mais j'aime bien le travail que je fais. En effet, quand je dis que je suis paresseux, c'est-à-dire, je sais pas trop comment vous dire ça. C'est, je le ressens comme ça, mais effectivement, vis-à-vis de l'extérieur, j'ai pas cette réputation en général. Mais je sais, au bout du compte, que j'aime bien, par exemple, avoir fini mon travail, ce qui est une preuve.
Ah, vous aimez bien avoir fini votre travail, alors que se passe-t-il? Dans ces cas-là, vous vous dites, voilà, la journée est achevée, je vais pouvoir en recommencer une demain pour travailler?
Exactement. J'aime bien les matins, en effet, c'est quelque chose, je me suis toujours dit que, un jour, j'aurai plus envie, j'aurai plus d'appétit le matin et j'espère que ce jour-là, j'arrêterai de travailler. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, je sais que, bon, je viens tôt le matin dans cette maison et je lis le courrier avant que, souvent, que les gens arrivent dans la maison et dans le temps même, je regardais même tous les manuscrits qui étaient là déjà. Et c'est vrai que c'est une espèce d'envie qu'on a. Irremplaçable. Une fois qu'on a, je me dis que la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de plus avoir envie justement de jouer avec ça. Quand j'ai été sous-officier comme ça en Allemagne, je sais que j'ai appris le bridge dans les messes de sous-officiers. C'était une des occupations. Eh bien, j'ai toujours été un mauvais joueur de bridge, mais ce que j'aimais bien, c'était retourner mes 13 cartes en me disant voilà, c'est avec ça que je vais jouer. Et j'ai toujours cette impression tous les matins. Votre question sur la paresse m'a beaucoup troublé parce qu'on on me l'a jamais posée. En réalité, vous savez ce qui est terrible dans une vie, quand on a comme ça une vie professionnelle et qu'on est là depuis longtemps, c'est qu'on a le sentiment qu'on connaît toutes les questions qu'on vous pose et qu'on répond toujours les mêmes choses et que c'est très déprimant, en tout cas pour moi qui l'entends. Mais votre question sur la paresse, personne ne me l'avait jamais posée.
Aucun auteur n'a dit, vous êtes un éditeur paresseux, vous ne lisez pas bien les manuscrits.
Non, ils m'ont accusé de beaucoup de choses, c'est des auteurs, mais en principe, en effet, pas tellement de ça.
De quoi accuse-t-on d'ailleurs généralement un éditeur, le crime habituel?
De mal faire son travail, mais on va même jusqu'à quelquefois prétendre, ça m'est arrivé d'avoir des auteurs qui pensaient que je ne les publiais qu'à seule fin de saboter leur diffusion et donc leur audience.
Cela était légèrement paranoïaque.
Voilà, c'est le mot que j'emploierais effectivement dans ce cas-là, mais ça existe.
C'est quand même assez vicieux, parce que d'être publié aux éditions de minuit, c'est tout de même bien, mais avec l'idée d'être...
Ah oui, mais entre l'impression qu'on a au départ et puis celle qu'on peut avoir quelques années plus tard, quand le succès n'est pas venu ou quand...
Vous avez des noms d'auteurs de qui...
Oui, j'en ai, mais je pensais bien que je ne veux pas vous les donner. Vous savez, les auteurs sont comme tous les autres, hein. Et souvent, ce sont des gens qui, même peut-être plus que d'autres, sont introvertis et qui donc ont souvent du mal à percevoir les réalités. Tel auteur qui a beaucoup de mal à lire les autres, si j'en juge par le fait qu'il ne les lit pas, trouve tout à fait scandaleux que lui-même ne soit pas lu. Quelquefois, je connais aussi tel auteur qui prétend que ce qu'il écrit est très facile, et alors que, bon, je lui dis, mais si les autres pensent le contraire, c'est quand même les autres qui ont raison, parce que si les gens disent que vos œuvres sont difficiles, c'est qu'elles doivent l'être à leurs yeux, donc elles le sont. Ça, c'est des choses qui varient d'ailleurs complètement avec les gens. C'est ça aussi un des côtés passionnants de ce métier, c'est qu'on est constamment en contact avec des gens différents les uns des autres et tous très intéressants.
Étiez-vous donc à l'origine, quand vous avez commencé, vous étiez même avant l'édition, un bon psychologue, vous compreniez les gens?
Non, mais je ne crois pas que je le sois devenu.
C'est pourtant pratiquement tout ce que vous avez à faire, les rassurer, les...
Oui,
les
oui, j'en besoin. Oui, mais je ne le fais. Alors là, vraiment, je le fais pas très bien. Ça, je me rends bien compte que c'est une de mes grandes faiblesses. Justement, je sais qu'on attend de moi plus que je ne peux donner très souvent. Et là, ne serait-ce que parce que. Au bout de 46 ans, les éditions de minuit, par la force des choses, ont un catalogue beaucoup plus important qu'au début. Donc, il n'y a plus d'auteurs. Donc, il faudrait pouvoir se consacrer à chacun d'eux, sans doute plus longtemps qu'au début, parce qu'ils ont vieilli eux-mêmes. Et on a évidemment soi-même beaucoup moins de temps. Et j'ai tendance, effectivement, à m'intéresser beaucoup. De nouveau, toujours plus à des nouveaux écrivains, en me disant les autres, ils ont moins besoin de moi, ce qui n'est pas toujours le cas.
Thank you.
voix nue, Jérôme Lindon s'entretenait avec Jean-Maurice de Montrémy. Réalisation, Marie-André Arminot.
Cet entretien avec Jérôme Lindon a été diffusé la première fois le 17 octobre 1994 sur France Culture. À suivre.